découvre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Jacques Dugofson sur Judaïque FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir au Café des Psaumes, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie Dubois et Malka Markovitch pour leur livre commun « Les bus de la honte » édité chez Talendier. Alors ce livre, c'est le fruit du travail de deux auteurs, mais ce sont deux auteurs qui sont aussi un couple dans la vie et qui racontent une histoire à quatre mains, mais l'un d'entre eux fera la personne, le narrateur, ce jeu, ce sera Jean-Marie Dubois. Et ce récit porte sur l'histoire découverte d'un grand-père maternel de Jean-Marie Dubois qui, pendant les années de l'occupation, avant et pendant, et un peu après même, a été l'un des responsables principaux de la Société des autobus parisiens qui a précédé la RATP. Alors, pour préciser qui vous êtes, Jean-Marie Dubois, est-ce que vous consentez à nous lire le tout début de votre livre? C'est les premières lignes de l'avant-propos qui vous définissent. Et c'est une autodéfinition. Je vous donne la parole.
Avec plaisir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je m'appelle Jean-Marie Dubois. Métis et baptisé, je suis né dans une famille française bourgeoise blanche et gaulliste. Ma compagne Malka Markovitch est issue d'une famille juive aux multiples origines, de la Méditerranée à l'Alsace en passant par l'Europe de l'Est, enracinée dans une culture de l'exil comme dans un rapport d'attachement mythifié à la nation française. Cela fait près de 20 ans que nous construisons notre vie ensemble.
Alors Malka, comment vous avez vécu le fait de laisser la parole à votre conjoint? Vous qui êtes une militante féministe, d'abord, je fais une parenthèse pour vous définir parce que professionnellement, vous êtes tous les deux historiens.
Oui.
Jean-Marie Dubois est historien de l'art, je crois, et vous, Malka, vous êtes, Malka Markovitch, vous êtes une historienne et en même temps une consultante internationale, et vous avez eu la triste occasion d'assister à la fameuse réunion de Durban qui a donné lieu à un déchaînement antisémite en 2001.
Absolument.
Alors, vous laissez la parole à votre conjoint dans cette aventure, dans ce livre.
Oui, parce que l'écriture à quatre sur un sujet aussi douloureux et aussi compliqué, avec des ramifications effectivement personnelles, familiales, chargées d'émotions, de part et d'autre en raison de nos origines, effectivement, c'était très difficile de faire un dialogue à deux. Et nous avons fait le choix, puisque c'est une histoire que nous faisons émerger de l'histoire de France, hein, une chape de silence, qu'il était important que soit Jean-Marie qui soit le narrateur et que ce jeu devienne une forme de nous et que Jean-Marie ainsi pourrait me faire parler, y compris des discussions que nous avons eues durant toute l'élaboration du livre.
Alors, cette histoire, les lignes qui suivent ce que vous nous avez lu, Jean-Marie, permettent d'éclairer de quoi il s'agit. Je vous lis. Hein. Mon grand-père, Lucien Nachin, grand ami du général de Gaulle, était l'un des principaux responsables de la Société de transport des autobus parisiens durant l'occupation allemande. 95% des déportés juifs, mais aussi de très nombreux résistants et communistes, ont été convoyés en bus durant cette période pour être ensuite acheminés en train vers les camps d'extermination et de concentration. Alors c'est vrai que le titre « Les bus de la honte », c'est quelque chose de très parlant, en tout cas pour la population juive de France, parce que tout de suite, on pense aux rafles, à celles du Veldiv, mais pas seulement, à toutes les autres rafles qui ont qui ont donné lieu au transport vers Drancy de tellement de personnes vouées à la mort. Alors, cette histoire concerne un grand-père maternel, Jean-Marie Dubois. Ça ne doit pas être évident de mettre en cause quelqu'un de si proche de sa famille.
Ce n'a pas été évident du tout, d'autant que ça a été une découverte tout à fait relevant du hasard, une découverte faite en 2014 à l'occasion d'un enterrement, l'enterrement d'un cousin germain. Donc nous avions le même
grand-père.
Et ce cousin germain avait 25 ans de plus que moi et donc avait connu ce grand-père, qui n'a pas été mon cas, vu que Lucien Lachin est mort en 1951. On me l'avait toujours présenté familialement comme un grand intellectuel, un grand militaire, un grand ami du général de Gaulle. Nous avons même découvert que c'était sans doute son meilleur ami. Ils se sont rencontrés en 1919 et n'ont pas cessé de s'écrire, de se voir jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la mort de mon grand-père. Donc j'étais resté sur cette image. Lors de cet enterrement, pour être rapide, ce cousin était un haut fonctionnaire, un enterrement au Père Lachaise, énormément de gens, énormément de discours. Et les discours, on s'est aperçu très vite avec Malka qu'ils tournaient autour de cette figure de Lucien Lachin.
C'est-à-dire que les interventions portaient plus sur le grand-père que sur le cousin, sur le défunt.
Voilà. Et tout d'un coup, notre esprit on s'est posé des questions. On s'est posé des questions. Qui était-on en train d'enterrer? Qui était-on en train de mettre à silence? Ça a été très étrange.
Donc il y a eu un malaise. Enfin, si j'ai bien compris, dans ce livre, il en ressort que vous n'étiez pas très bien à ces obsèques. Malka, c'est votre cas aussi.
On était particulièrement mal. D'abord, physiquement, bien que faisant partie de la famille, on était relégué au fond du crématorium, de la salle du crématorium, en prise avec des courants d'air violents. Les discours n'en finissaient pas. C'était comme une espèce d'immense messe républicaine. Puis il y avait déjà des choses qui étaient un petit peu étonnantes dans la manière même dont on évoquait l'enfance du cousin de Jean-Marie. Bernard, par exemple, quand on évoquait la période de la Deuxième Guerre mondiale qu'il avait vécue en tant qu'enfant, disait que ce fut les plus beaux moments de sa vie.
Ah oui.
Quand on évoquait la guerre d'Algérie, on parlait de ce soldat regardant les films de David Crockett, contemplant le beau désert algérien. Donc déjà, il y avait quelque chose qui était comme une espèce de mythification de tout. Et puis c'était un enterrement qui n'en finissait pas. L'après-midi, il y a eu le dépôt des cendres dans le cimetière du village où le grand-père de Jean-Marie avait sa maison jadis. Et
c'est
là,
au
Fréchaud, voilà, oui. Dans une petite ville qui s'appelle Viarmes, à 40 km au nord de Paris. Et en rentrant dans cette maison que je n'avais jamais vue, mais dont la mère de Jean-Marie m'avait longuement parlé, comme d'un espèce de lieu absolument merveilleux, eh bien, j'ai eu un malaise, j'ai eu envie de vomir. J'étais prise d'une espèce de réaction très, très, très physique, très insupportable, à tel point que lorsque nous sommes revenus, tous les deux assez sidérés de cette longue journée d'obsèques avec ces grands discours, etc., eh bien, nous étions dans un état complètement second. Et voilà, c'était pas du tout une journée drôle. En général, dans des obsèques, après, on rigole, on boit, on parle du mort, on essaye de décompresser. Là, il n'y avait aucune décompression possible. Et on a pris un verre de vodka. Et là, tout est sorti.
Alors, j'ai l'impression, à vous lire, il s'agit des bus de la honte, par Jean-Marie Dubois et Malka Markovic, à vous lire que cette situation dans laquelle vous vous trouviez lors des obsèques au Père Lachaise, le fait que vous soyez un métis dans cette famille, c'est-à-dire Colored Man, comme on dirait en anglais.
Absolument.
On a l'impression que ça a joué et que vous êtes comme une pièce acceptée, mais à la limite acceptée dans cette famille française catholique, faite de gloire plus ou moins méritée, militaire, etc.
C'est exactement ça. Et c'est, je pense que c'est ça qui a déclenché, comme le vient de l'exprimer Malka, notre révélation, notre volonté tout d'un coup de se poser d'autres questions autour de ce grand-père. Et Malka, tout simplement, m'a posé une question que devrait se poser toute personne qui a eu des parents ou des grands-parents qui ont vécu la période de la Seconde Guerre mondiale. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'exactement a fait ton grand-père entre l'appel du 18 juin et 1944?
Oui, ça, c'est une réaction tout à fait classique des juifs ashkénazes, en tout
voilà.
cas, et d'autres aussi, peut-être, que quand il s'agit de personnages qui ont vécu à cette époque, qu'a-t-il fait pendant la guerre?
Qu'a-t-il ouais. fait On m'avait informé, ma mère m'avait informé que son père avait été militaire dans un premier temps et avait fini sa carrière comme Dixit, directeur de la RATP. Hein, voilà, donc c'est des choses comme ça, des choses familiales dans lesquelles moi je ne m'étais jamais posé plus de questions, j'avais entériné la chose. Et c'est vraiment à l'issue de cet enterrement et d'une recherche rapide sur Internet qu'on n'avait jamais faite précédemment, en rattachant le nom de Lucien Nachin à RATP, où on apprend que la RATP en fait est une création de l'après-Seconde Guerre mondiale, elle a été créée en
1949,
et que donc une société précédente s'appelant la STCRP, Société des Transports en Commun de la région parisienne, il se trouve donc, on découvre que mon grand-père était directeur du personnel, enfin chef de service de la direction du personnel, mais enfin...
Mais non, on dirait DRH, quoi.
DRH, voilà, directeur des ressources humaines.
Mais c'est une place très importante.
Très importante.
C'est la gestion des personnels.
Et le choix du personnel.
Oui. Oui, je voudrais quand même qu'on réponde à la question que vous avez posée au départ sur la position un petit peu particulière de Jean-Marie au milieu de cette famille. Jean-Marie...
Et on peut ajouter la position particulière de son épouse aussi.
De son épouse aussi, absolument. Parce que Jean-Marie Dubois est certes né dans une famille blanche, catholique et ami du général de Gaulle, ce qui avait d'ailleurs évidemment rassuré mon père, qui lui avait 20 ans pendant la guerre et qui voilà, a vécu ce que beaucoup de juifs de cette époque ont vécu, d'engagement. Quand je lui ai dit, voilà, je suis avec... Le petit-fils du meilleur ami du général de Gaulle, même si mon père n'était pas très gaulliste, il y avait quand même comme
c'était
ça une espèce
comme une,
de respect.
Une garantie.
Une garantie. Une garantie. Et dans la famille de Jean-Marie, il faut savoir que ses frères et sœurs étaient tous blancs. C'est-à-dire que Jean-Marie est un enfant adultérin et qu'il a été reconnu par l'homme qui aimait sa mère, qui était donc son mari, Monsieur Dubois, Pierre Dubois, la mère de Jean-Marie, Micheline Nachin, donc épouse Dubois, a eu un petit enfant métis au milieu d'une fratrie de 5 enfants, tous blancs, certains blonds. Et je veux quand même dire que c'est assez extraordinaire dans les années 60 que Pierre Dubois ait reconnu comme son fils cet enfant adultérien. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui même ce serait encore quelque chose de possible. Il n'empêche...
C'est ce Pierre Dubois que Jean-Marie Dubois appelle couramment son père. Quoi.
C'est son père. On ne sait pas qui est le père biologique de Jean-Marie. Peut-être un musicien de jazz de Saint-Germain-des-Prés. Oui. Sa mère était une femme assez... voilà, qui aimait danser, qui était assez libre, qui était une femme pleine de vie. Et c'est vrai que la position de Jean-Marie a toujours été d'être accepté, mais qu'on dise quand même « ta mère est folle ». Ta mère est folle, et si on t'accepte, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour, mais chez nous, voilà, on est sérieux, on est militaire, on est fonctionnaire, on est tout ça, et une position un petit peu inconfortable, et c'est pour ça que les bus de la honte, c'est les bus de la honte de la France, mais il y a aussi cette honte qui était portée par Jean-Marie, si je peux me permettre de le dire de cette manière, la honte de sa mère d'avoir été une femme libre, une femme qui a eu des amants et qui et il y a toujours dans une famille celui qui porte la honte et celui qui a la honte. Et je crois que ce qui se passe dans l'histoire de France par rapport à cette période est un petit peu similaire à ce qui se passe dans les familles entre guillemets incestueuses, c'est-à-dire où on ne doit pas parler de certaines choses.
Et ça, vous appelez ça quelque part dans votre livre la violence du silence. Alors, après ces obsèques, vous sentez tous les deux qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, vous allez voir sur Internet.
Internet. On est au XXIe siècle, on tapote.
Qui est ce grand-père ?
Voilà. Qui est ce grand-père ? Je le savais. J'avais des indications sur son enfance, sur une enfance assez difficile, qu'il est fils de gendarme, mais qu'il est extrêmement brillant, qu'il ne peut pas passer son bac du fait de ses origines sociales, mais qu'il réussit à faire qu'on appelle l'école Saint-Mexan, qui est la petite porte pour devenir militaire, qui n'est pas Saint-Cyr. Il devient donc un officier très rapidement. Très rapidement, un autodidacte de très haut vol. De très haut vol, très curieux, qui est remarqué par tout le monde.
C'est cette image-là. D'ailleurs, il a des amitiés dans le milieu militaire, notamment. Il est pas mal question de ce colonel Maillère.
Colonel Maillère.
Qui est quelqu'un d'ignoré, mais qui a quand même un rôle considérable parce que c'était un Dreyfusard qui est né au milieu du 19e siècle et qui avait finalement, si j'ai bien compris, suggéré à De Gaulle ses idées de stratégie, c'est-à-dire les chars, l'aviation, etc.
Toutes les biographies.
Donc c'est quelqu'un d'important, mais qu'on ne connaît pas. Je crois que vous signalez qu'il y a eu un livre sur lui qui a été préfacé par Jean Lacouture.
Alors, il y a eu un livre qui est notamment un livre avec plusieurs auteurs, dont l'une des auteurs est son arrière-petite-fille, Brigitte Bergmann, qui relate la carrière de ce militaire extraordinaire, qui avait un regard extrêmement pointu sur la situation, notamment militaire, lors de la guerre de 14-18, et ce qui lui a coûté très cher. Et ce qu'on raconte, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il écrit à mon grand-père qui est fait prisonnier pendant la guerre de 14, il lui écrit en captivité, il lui parle de l'ineptie de la stratégie française et que... Il dit très, très, très naïvement que les Français devraient prendre exemple sur l'Allemagne, que les choses se passeraient. Donc, c'est une lettre qui le fera destituer de l'armée.
Il aura une carrière entravée. Oui.
Complètement.
Alors, c'est vrai qu'il est peu, que le colonel Maillère est peu connu, mais en réalité...
Émile Maillère
est peu connu aujourd'hui, mais en fait, c'était quelqu'un de vraiment très important, un rebelle. Pardon, excusez-moi. Son gendre était Paul Grunebaum-Ballin, qui a rédigé la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, qui était conseiller d'État. Et entre les deux guerres, tous les dimanches matins se réunissaient dans les salons de Paul Grünbaum-Ballin tout un aréopage d'intellectuels, Léon Blum, enfin voilà, la haute société israélite, entre guillemets, de gauche, socialiste, voilà, humaniste, laïque, tout ce que l'on veut.
Et, oui, il a essayé aussi de faire se rencontrer Léon Blum et le général de Gaulle, qui n'était pas général à l'époque, mais ça n'a pas très bien marché, je crois.
Et c'est vrai que de Gaulle n'avait pas accès à ces milieux. Il était maurassien, mais il avait beaucoup entendu parler du colonel Meyer et rêvait de le rencontrer. Et par son copain Lucien Nachin, et c'est là que Jean Lacouture et d'autres biographes de Gaulle disent combien Lucien Nachin a joué un rôle central dans la rencontre entre le colonel Émile Meyer et Charles de Gaulle, c'est que Lucien Nachin amène Charles de Gaulle dans ses cercles du dimanche matin. Ça a été une chance pour Émile Meyer, il est mort en 1938, donc il n'a pas vu ce qui allait se passer. Et Jean Lacouture et d'autres disent que Émile Meyer a véritablement été le mentor de Charles de Gaulle, que sa personnalité de grand militaire, rebelle, etc., a joué dans la formation et ce qu'est devenu Charles de Gaulle. Et on peut peut-être se poser des questions sur la manière dont Charles de Gaulle a pris une certaine stature dès le 18 juin, peut-être inspiré par la manière dont Émile Meyer avait lui-même s'était positionné par rapport au reste de l'armée en 14 et puis aussi au moment de l'affaire Dreyfus.
Oui, si je vous fais parler sur cet Émile Meyer, c'est parce qu'on verra plus tard dans le livre qu'il y a un problème avec l'héritage même concret de ce colonel Meyer et la famille de Nachin qui ne s'est pas très bien comportée avec cet héritage, très mal même. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de camper le personnage.
Le paysage, oui.
Mais ce qui est étonnant, c'est la proximité insoupçonnée de Charles de Gaulle avec votre grand-père. Parce que là, on verra dans le livre que à la libération, en fait, ça va l'aider à passer à travers les filets.
À travers l'épuration.
On a même trouvé une lettre, un échange de lettres en 1942 entre De Gaulle et Nachin, entre donc Londres et Paris, ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant.
Alors, vous avez aussi ajouté dans votre livre des témoignages de ceux qui ont subi ces voyages en autobus, faute d'avoir des éléments de la part de ceux qui les ont organisés. C'est-à-dire que dans ces archives, vous allez voir sur Internet, comme on le disait tout à l'heure, Jean-Marie Dubois, mais... Qu'est-ce qu'on trouve sur cette période sur le plan de la responsabilité de Nachin dans ces transports?
Très peu de choses sur Internet. C'est pour ça qu'on s'arrête très vite. Sur Internet, on trouve juste une note de service de mon grand-père de 1941 où il a une injonction à tout le personnel de se plier à l'œuvre de révolution nationale en cours.
Donc autrement là... dit, la responsabilité de Lucien Nachin n'est pas seulement celle d'avoir organisé pour le mieux tous ces transports de gens voués à la déportation et à la mort, mais aussi d'avoir eu une politique de répression
à l'intérieur
de la société.
C'est-à-dire que dès l'armistice en 1940, cette société d'autobus est évidemment en mauvaise position économique et n'hésite pas une seconde, je dis bien une seconde, à mettre à disposition des Allemands à la fois leur parc d'autobus, mais aussi, ce qui est très important, les ateliers, les nombreux ateliers qui sont dans Paris, qui permettaient de réparer les autobus, et là, contre rétribution toujours, vont permettre de réparer les voitures allemandes, les tanks allemands. Donc tout ça, nous avons trouvé des éléments chiffrés montrant que cette rétribution a permis de faire augmenter les bénéfices entre 1941 et 1942, par exemple, de 1000%.
Mais ça, ce n'était pas sur Internet, tout ça.
Pas du tout.
Parce que vous avez été voir les archives de ce qu'on appelait plus tard la RATP.
La RATP.
Ou... Et alors, vous attendiez des réponses. Et alors, il y a une anecdote, c'est que vous vous trouvez en vacances à Enghedi, au bord de la mer Morte.
Téléphone sonne.
Oui.
Le téléphone sonne parce que j'avais joint l'archiviste avant de partir à Enghedi, en lui demandant, en me faisant passer pour un généalogiste, parce qu'on ne sait jamais, passionné par son grand-père, et je lui demande s'il y a un dossier sur Lucien Nachin, et il me répond très vite, dix jours après, oui, nous avons un dossier passé donc, aux archives. Donc ça, c'est une première étape. Les archives de RATP se révèlent... glaçante, parce que Malcolm m'avait fait sourire en disant après ce petit extrait qu'on avait trouvé, cette injonction au personnel en 1941, on s'était dit pourvu qu'il ait quitté cette société en se rendant compte de ce qui se passait. Pas du tout, on se rend compte qu'il est resté dans la société jusqu'en juin 1946. Donc ça, c'est une des informations capitales. Et puis on trouve certains éléments très très troublants. Notamment, on retrouve le nom de mon grand-père dans une liste de hauts dirigeants de la société qui vont être épurés en 1945. Donc là, on se dit, mais pourquoi ? Donc c'est vraiment une enquête policière, en fait. On part en fait de très peu d'éléments. Et donc tout ça va nous mener vers d'autres archives, et notamment plus intéressante, les archives de la préfecture de police.
Il se trouve que vous êtes tous les deux historiens, donc vous avez quand même, vous connaissez les méandres des démarches de
des
la
démarches,
recherche.
Des démarches et des bizarreries des classements des archives, et on s'est souvent arraché les cheveux pour essayer de dénicher des documents dont on produit quelques éléments dans le livre, montrant justement, et là je vous réponds, la responsabilité directe de mon grand-père et de sa société dans le fait de fournir des autobus pour le transport. Alors c'est là, et c'est un sujet inédit en fait. On s'est toujours évidemment penché sur le rôle de la SNCF. On a l'image de cette photo des autobus, mais sur le fonctionnement des autobus et de cette société, il n'y a quasiment rien. Il y a eu un mémoire de maîtrise un petit peu comme ça, peu connu. Mais autrement, donc, nous avons beaucoup travaillé historiquement pour analyser le fonctionnement de cette société qui en fait... a préféré servir les Allemands que servir les Parisiens. C'est-à-dire que pendant la guerre, il n'y avait quasiment plus d'autobus pour le service public. Et ça, c'est quelque chose, c'est une zone d'ombre absolue. C'est une zone d'ombre absolue. Je vais laisser Malka.
Oui, je voudrais aussi rajouter que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de zone de silence et de la violence du silence.
Mais vous avez constaté que des pièces avaient été enlevées.
On a constaté dans les archives, même dans les archives du dossier de Lucien Nachin, un papier découpé au gros ciseau, visiblement... En fait, son dossier a été formidablement épuré. Entre 41 et 44, il y a un grand trait barré, alors qu'on connaît toute l'évolution de sa carrière à partir de 1923. Ce que je voulais dire sur la question des autobus, effectivement, il y a eu des mémoires de maîtrise, Pascal Fitzner, d'autres ont parlé de l'épuration de la société.
Oui, vous êtes beaucoup servi de Pascal Fitzner. Et aussi du travail de Klarsfeld.
Bien sûr, mais on parle peu enfin, on parle du rôle de cette société, qui était une société de droit privé, qui n'était pas nationalisée, comme elle le fut après. Mais on raconte peu la manière dont s'organisaient ces transports. C'est-à-dire, on parle toujours de la rafle du Veldiv. À Drancy, on voit un wagon, mais on ne voit pas les autobus. Or, dans Paris, le public parisien a vu ces autobus avec les gifs. Et je raconte toujours cette anecdote depuis la parution de notre livre. Un monsieur nous écrit qui était au collège Saint-Michel de Picpus devant l'hôpital Rothschild, qui était donc un jeune collégien catholique dans une institution catholique qui se trouvait devant l'hôpital Rothschild. Et il nous écrit, il nous dit, quand j'étais adolescent, je voyais les bus partir avec des vieillards et des malades. Ce qui veut dire que quand on était parisien, on voyait les bus. On ne voyait pas forcément les wagons si on n'habitait pas près d'une gare ou près d'une voie ferrée. Mais dans la région parisienne, il était impossible de ne pas voir les bus. Et ça ne se passait pas seulement à l'aube. On a des comptes rendus qui sont diligentés par la préfecture de police, qui rendent compte de la manière dont s'est passé tel ou tel transport. Et on dit bien, voilà, à 14h30, tel bus est parti de tel endroit, a fait tel trajet, est arrivé à Drancy. Donc, toute l'organisation des autobus est en fait très précisée. Et c'est ça aussi qui est particulièrement glaçant. C'est-à-dire que ces choses administratives, parfois, il y a effectivement, on voit que c'est écrit « transport de juifs ». On voit 200 juifs ont été emmenés à tel endroit, 5 amis des juifs. Enfin, tout est tout à fait précis. Et donc, ajouté au témoignage, comme le disait Jacques Dugofson tout à l'heure, de ceux qui parlent de ces trajets en bus, finalement, ceux qui ont été déportés, raconte la déportation, raconte le trajet en train, raconte l'horreur du système concentrationnaire. Le trajet en bus, il dure combien de temps? Il dure 10 minutes, il dure maximum une demi-heure entre la gare de Sterlitz et Drancy quand on vient du sud, entre la gare du Bourget et Drancy lorsqu'on arrive de province et qu'on passe par Drancy, puis on repart en bus encore, ça dure 5-10 minutes. Finalement, ce sont des petits trajets, parfois qui sont moins inconfortables que des trajets qui durent 3-4 jours dans des wagons plombés. Et c'est pour ça que ça perd cette histoire des autobus qui est essentielle. Sans les autobus, rien n'aurait été possible pour les Allemands. Pendant cette période, ils sont sur le front russe et on a besoin, on le sait, de la collaboration de la police française, mais aussi de la société des transports pour convoyer les juifs, les communistes, les récalcitrants.
Donc, vous soulignez, Malka, une grande rigueur administrative dans la gestion de cela. Et vous dites aussi dans votre livre commun, Jean-Marie Dubois et Malka Markovitch, que cette rafle du Veldiv du 16 et 17 juillet 1942 masque un peu le fait que ces rafles n'ont pas eu lieu que ces deux jours-là, mais que ces transports se sont échelonnés de 1941 à l'été 1944, juste à la veille de la libération.
Voilà, et c'est tout le mystère de l'absence de photographies et d'archives très précises, notamment sur la rafle du billet vert, sur la, en 1941, sur la rafle Place de la République, où justement des témoignages nous ont permis de camper, si j'ose dire, le décor. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la Place de la République entièrement entourée d'autobus. Les gens viennent d'être raflés dans leur appartement et ils vont être embarqués dans ces autobus. On a une vague image qui existe, on a très peu d'éléments. Donc nous, c'est vrai qu'on s'est attaché aussi à ces témoignages où le mot bus revient et on comprend mieux le fonctionnement avant la rafle du Veldiv et justement que ces autobus ont aussi servi à transporter les ce qui n'était pas encore résistant, mais les communistes qui étaient déjà persécutés, tous les gens qui, les francs-maçons, même les gaullistes. Donc mon grand-père dénonçait des gens qui étaient du côté de son meilleur ami. Donc tout un ensemble,
tous
un balai,
les ennemis de Vichy. Enfin.
Tous les ennemis de Vichy. Donc un balai incessant d'autobus. Plusieurs milliers de transports d'autobus se sont déroulés pendant ces 4 années. Avec très peu d'éléments officiels. Dans les archives de la RATP, tout ce qui concerne le transport des juifs a disparu. Par contre, ce qui concerne le transport des communistes a été sauvegardé, comme par hasard. Donc on imagine bien que mon grand-père s'est dit que ça pouvait tout à fait être agréable au général de Gaulle d'avoir quelques listes de communistes à la libération. Alors c'est ces éléments-là. Donc nous, on avance avec Malka dans notre enquête et on va d'horreur en horreur. Donc ça, c'est la première étape. Et quand les Juifs de la zone libre peuvent être déportés, on arrive aussi à un autre niveau d'horreur. C'est que, donc, comme le disait Malka, les Juifs arrivent dans les gares parisiennes après des voyages épouvantables, sont accueillis par ces autobus qui doivent les emmener à Drancy. Ils arrivent à Drancy. Certains restent quelques minutes, quelques heures, et repartent en bus, tout d'abord à la gare du Bourget, où les attendent les wagons plombés. Ensuite, ce sera à partir de 1943 à la gare de Bobigny. Et tous ces trajets se font en autobus. C'est inlassablement des allers-retours en autobus. Donc des témoignages à la fois de gens qui étaient dans l'autobus, d'équipes de futurs déportés ou de déportés de Drancy qui accompagnent ces gens jusqu'à la gare, qui eux participent et décrivent notamment Georges Oran, dont on va retrouver les témoignages capitaux pour la compréhension de ce système, accompagne les déportés jusqu'au wagon. Et on voit que c'est d'une précision, mais phénoménale. C'est-à-dire qu'il y a une coordination avec la préfecture de police, donc on connaît la collaboration de la préfecture de police, une collaboration avec la SNCF, parce qu'il faut aussi que tout ça soit avec un timing parfait. Donc souvent, depuis que ce livre est sorti, on nous a posé des questions insidieuses en disant « mais peut-être que Lucien Nachin n'était pas tout à fait au courant des gens qui étaient transportés dans ces autobus, depuis son bureau. »
Invraisemblable.
Mais je vous assure que c'est récurrent.
Alors, il reste malheureusement très peu de minutes, parce qu'il y aurait bien des choses à évoquer dans votre livre. Il y a par exemple le fait, la façon dont Lucien Nachin, votre grand-père, a échappé à l'épuration en 1944-45, le fait qu'il ait continué à avoir des responsabilités et qu'il gérait les bus qui rapatriaient les déportés, qui prenaient le même bus dans le sens contraire.
Un très beau témoignage.
Des choses comme ça. Et il y a aussi son rôle lors d'une manifestation
du général de Gaulle.
Il organise un service de bus.
Voilà,
il adhère plus tard au RPF, tout ça. Mais il y a une chose qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'est l'écho de votre enquête dans votre famille. Ça fait des remous.
C'est un autre élément du livre.
Quelques mots là-dessus, mais nous disposons de très peu de temps.
Voilà, pour faire de manière très courte, la veuve de mon cousin...
Dénommée
sur la lettre C, grande intellectuelle qu'on ne peut pas supposer ignorer l'histoire de France, nous a fait une fin de non-recevoir d'une manière absolument immonde. Et je pense qu'elle a participé à notre volonté d'écrire... d'une manière très forte. Elle ne se rend pas compte, mais je pense qu'elle est à la base aussi de ça.
Et je voudrais terminer en disant qu'on s'est aussi posé pas mal de questions sur l'enrichissement personnel pendant cette période du grand-père de Jean-Marie, puis qui venait d'un milieu modeste.
Oui, il y a l'aspect des spoliations
aussi.
Et
où on se pose des questions sur l'origine. Il avait une collection de pierres précieuses, de timbres précieux, d'objets qui ne correspondaient pas du tout au milieu d'où il était originaire. Et donc, on se pose pas mal de questions, et aussi à travers les témoignages, toutes les recherches qui ont été faites autour des magasins Lévitan, et aussi les travaux qui ont été faits sur le clan de Drancy, sur les fouilles qui étaient effectuées, il était bien évident qu'il était à une place de choix aussi pour récupérer un certain nombre d'objets qui, lorsqu'après les fouilles se faisaient à Drancy, eh bien, ces objets étaient aussi transportés en bus vers d'autres lieux.
Oui, alors ces aspects-là se manifestent à tout propos par des fins de non-recevoir pour toutes les démarches. Par exemple, ils ont négligé de rendre ce que le colonel Meyer avait confié à votre grand-père. Des réflexions sans cesse à rebrousse-poil que Malka et vous aviez eu du mal à supporter. Voilà. Et ben, pour connaître tout cela, je recommande évidemment la lecture de ce livre qui est à la fois impressionnant et émouvant, qui rencontre la grande histoire et une histoire de famille. Et il s'agit des bus de la honte de Jean-Marie Dubois et de Malka Markovitch, édité chez Talendier. Je vous remercie tous les deux.
Merci.
Merci à vous.
Et la semaine prochaine, je crois que c'est Antoine Spire qui prendra la relève. Au revoir à tous et à toutes.
Livre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Jacques Dugofson sur Judaïque FM.